Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cité dans l'émission Entre les âges. Entre les âges, c'est une émission qui explore les liens entre les générations créés grâce à la musique classique. Je m'appelle Laudine Dard et aujourd'hui, mon invité n'est pas musicien, c'est un grand mélomane. Il a pris en photo Sekou Kanamason, le violoncelliste favori de l'Angleterre qui a joué au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, mais aussi Rachel Colli d'Alba ou Christian Chamorel qui était notre invité il y a quelques semaines. Il s'agit de Christian Meuvely. Bienvenue Christian.
Mais merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Christian, vous avez donc un lien très fort avec la musique, même si vous ne la pratiquez pas. Est-ce bien juste ou est-ce que vous jouez d'un instrument ?
C'est vrai. En fait, je suis, on peut dire, rentré dans la musique classique par passion. C'était le départ. En fait, le départ était que je me passionnais pour le violon précisément. Et à un moment, j'en ai même acheté un et j'ai essayé de commencer à le comprendre, à essayer de le pratiquer. Et en fait, voilà, c'était ma porte d'entrée. En fait, c'était un instrument précis, donc était le violon. Ouais.
À quel âge ?
C'était très tard. Hein. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, en fait, une petite cousine jouait du violon à cause de son papa qui était donc mon parrain et oncle qui dirigeait en fait un petit orchestre amateur dans une petite commune fribourgeoise d'Udingen et un orchestre, petit ensemble quoi. Et c'est vrai que quand je les regardais comme ça, quand j'étais petit, je regardais ma cousine, mais je la regardais jouer, mais à ce moment-là, ça me disait encore rien du tout, en fait. Hein. Je disais, mais elle jouait devant nous et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? tu vas pas jouer avec tes copines, tu vas pas. Enfin bref, à ce moment-là, ça me disait encore pas grand-chose, c'est vrai, ouais. Mais donc, c'était venu très tard, hein, cet amour pour le violon.
D'accord, c'est passé par le violon. Ouais. Quelle influence a la musique sur votre style ? Vous êtes donc photographe, on va en reparler un peu plus tard, mais quel rapport pour vous entre ces deux formes d'art ?
Quel rapport ? Il n'y en a pas directement, on va dire, mais c'est peut-être l'aspect historique qui m'intéresse beaucoup. C'est l'amour pour le temps long, c'est ma passion pour la musique et ma passion pour l'image, pour la photographie que j'essaye de rejoindre, en fait. Hein. Mais directement, on va dire qu'il n'y a pas de lien direct, mais c'est moi qui essaie de le faire, disons.
Christian Meuvely, vous vous dites portraitiste, donc vous faites des portraits. Ça ne se réduit pas à prendre les photos des gens uniquement de leur tête et leur buste, n'est-ce pas ?
Non, ouais, exactement. Portraitiste. Portraitiste, photographe. Photographe, je le dis un petit peu moins parce que je n'aime pas du tout ce mot, en fait. Hein, c'est un mot trop technique, c'est trop technique. Donc, portraitiste, c'est un mot que j'aime bien parce que j'essaie de m'inscrire un peu dans cette tradition des peintres baroques. C'est de là que je puise en fait toute mon inspiration. Je regarde très peu les photographes, en fait. Hein, je m'intéresse très peu à ce que d'autres grands photographes font. Mais c'est vrai que mes maîtres, c'est les grands peintres, précisément baroques et encore plus précisément le Caravage, que j'aime beaucoup. Voilà, quand je dis le mouvement baroque, c'est ce baroque italien, en fait, qui m'inspire beaucoup plus que le baroque français, qui est très monarchiste et qui me plaît beaucoup moins. Moi, j'aime beaucoup dans le baroque, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté râpeux du Caravage, très, très sombre, et puis des lumières très délicates, surtout. La lumière, je pense c'est quelque chose qu'il faut utiliser délicatement, partir de l'ombre, un amour de l'ombre et partir vers la lumière, mais vraiment délicatement, et puis de manière très choisie, ouais.
D'accord, on reparlera un peu plus tard de vos influences. Je voulais juste aborder le thème donc de cette collaboration avec les musiciens. Vous avez pris en photo de nombreux et nombreuses musiciens et musiciennes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le musicien en action, en fait, car vous demandez à vos modèles de bouger, de jouer.
Oui, c'est ça. J'aime beaucoup le mouvement. Hein. Le mouvement, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de la peinture baroque. Encore une fois, je reviens encore un peu là-dessus, mais c'est vrai que le mouvement, c'est une... C'est un aspect qui est très très important, en fait. Hein. C'est donner une attention, un mouvement et pas quelque chose de figé. Donc c'est vrai que ça, j'aime beaucoup l'aspect vivant dans l'image. L'impression que l'image peut tout d'un coup se mettre à bouger ou bien le sentiment quand on regarde une photo qu'elle est vivante, ouais, qu'elle est un peu en mouvement. Et ça c'est un aspect que j'aime beaucoup reproduire dans la photo.
Et c'est quelque chose que vous retrouvez particulièrement chez les musiciennes et musiciens.
Oui, bien sûr. Oui, le mouvement, c'est clairement quelque chose d'important. Enfin, Jouer de manière figée serait un peu compliqué, je pense. Hein.
Donc, vous prenez des photos de musiciens, de musiciennes, cependant, ouais. Pas vraiment pendant les concerts. Vous n'êtes pas un photographe d'événements, n'est-ce pas? Vous mettez vraiment en scène vos...
Oui, totalement. Hein. La mise en scène, je trouve que c'est très important dans ma manière d'appréhender l'image. C'est vrai que le live, c'est encore un autre métier, comme vous le dites très bien. C'est vrai que le photographe d'événementiel, de concerts, de couverture d'événements, c'est encore un autre job et c'est vrai que c'est très peu le mien. Moi, j'aime beaucoup la mise en scène, le côté théâtral, oui, la dramaturgie, etc. La mise en scène, je pense que c'est un des plus grands aspects, un des plus importants de ma manière de percevoir l'image, ouais. Avant même la photographie, la technique, en fait. Hein.
Nous allons écouter tout de suite un premier extrait que vous avez choisi, Après un rêve de forêt, interprété par Sheku Kanamazan.
Extra, on y va.
Cité Genève.
Nous écoutions Après un rêve de Gabriel Fauré, interprété par Sheku Kanamazan. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Meuvely, photographe ou plutôt portraitiste et mélomane. Christian, quel a été votre parcours pour devenir portraitiste? Est-ce que vous avez fait des études en lien avec ça ou est-ce que c'est uniquement de la passion et comme le violon, vous l'avez dit plutôt, est-ce que vous avez appris par vous-même?
Alors le parcours c'est quelque chose de très un peu chaotique. Bon, je me présente plus comme un autodidacte. Hein. C'est un peu plus simple parce que j'ai commencé par des études de graphiste hein, il y a 15 ans en arrière que j'ai pas terminé. J'ai ensuite fait l'armée, mon service militaire et quand je suis revenu en fait j'ai travaillé dans l'événementiel. Donc je travaillais avec un ami qui faisait venir des grandes stars américaines pour organiser des tournées en Europe et j'ai commencé à m'introduire à l'image en fait par cet angle-là et c'est gentiment que j'ai commencé à introduire la photographie dans ma manière de concevoir Et comment dire, oui, voilà. Donc c'est d'abord graphiste. D'ailleurs, c'est, pardon, le côté graphiste est quelque chose qui se ressent encore, hein, beaucoup dans ma photographie. Hein. C'est une photo très retouchée, très assumée. J'assume volontiers le côté l'utilisation de Photoshop et tous ces logiciels d'image. Et voilà. Donc d'abord graphiste et photographe ensuite. Mais on va dire c'est l'image, voilà, globalement. Hein.
À propos de ces retouches, vous m'avez dit un jour vouloir combattre le réalisme en photo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ouais, ça j'adore. J'adore m'opposer au réalisme. C'est vrai que le réalisme, c'est en fait, je pense que dans notre époque, il y a une demande de réalisme qui est très grande. Je pense que c'est en lien. Il y a un effet de peut-être de causalité entre cette volonté de chercher du réalisme à travers tout, à travers le cinéma, à travers les documentaires, qui va en lien avec un désenchantement général en fait hein, de nos sociétés. On ne croit en plus rien et on pense qu'il est vraisemblable amène la vérité. Et moi, je le pense pas. Je pense que la vérité peut sortir autant de la fiction. La fiction peut dire des réalités. Je vois beaucoup de réalités quand je regarde Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, est-ce que ça en dit? Et voilà. Donc, ma manière d'apporter la vérité, c'est plus par la fiction, la théâtralité dans l'image et en combattant le réalisme. Ouais.
D'accord, donc combattre le réalisme, un retour aussi à cette esthétique baroque
Ouais.
italienne. Est-ce que vous avez l'impression d'un retour en arrière, de revenir à une culture plus ancienne ou de créer en fait une avant-garde? Est-ce qu'il y a un élément de néoclassicisme chez vous ou c'est pas comme ça que vous vous définissez?
Je suis pas sûr que dans ma démarche, il y ait quelque chose de nostalgique. La seule chose, c'est que j'estime que le meilleur qu'a pu donner l'humanité dans toute son histoire est pas celle d'aujourd'hui, en fait. C'est vrai que la période baroque est une époque où il y a eu un génie beaucoup plus important qu'aujourd'hui dans cette quête du beau. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais retrouver parce que j'estime que c'est par ça que l'humanité pourrait être sauvée, c'est par cette recherche du beau et puis parce qu'elle, vous savez, le beau, en fait, c'est comme si l'humanité, puis comment dire, un peu le vivant, donnait une intention, en fait. Vous savez, c'est comme si derrière la création du beau, se trouvait le sens et se trouvait une nouvelle vitalité et une nouvelle harmonie, en fait. Hein. Et je pense que cette époque, on la vit pas et j'essaye de ramener ça un petit peu à travers la photographie, mais c'est vraiment presque plus de l'avant-garde. C'est peut-être l'école d'hier, mais peut-être celle de demain aussi, ouais.
D'accord, vous parliez d'harmonie. Est-ce que vous écoutez de la musique pendant ce long travail, j'imagine, de retouche de la photo? Est-ce qu'il y a des musiques particulières qui influencent des styles, des couleurs, des lumières particulières dans votre travail?
C'est assez spontané, hein. C'est assez spontané. Mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique, ouais, pendant que je retouche et même des fois je pense à certaines musiques quand je photographie. C'est vrai que la musique est assez partout dans mon cheminement. Ouais.
D'accord, alors nous allons tout de suite écouter deux des variations sur Unser Dummer Purple Mind de Mozart, interprétées par Christian Chamorel. Thank you.
Radio Cité Genève.
Nous écoutions deux des variations de Unser Dummer Pöbelmeint de Mozart par Christian Chamorel. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Meuvely et nous allons maintenant aborder ses projets ainsi que ses fresques. Vous avez fait une photo, une grande fresque qui s'appelle Rerum Natura, n'est-ce pas ?
De Rerum Natura.
D'abord, pourquoi ce titre et ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur cette fresque ?
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette fresque ? Alors, elle a été exposée, celle-ci, lors de ma dernière exposition. C'était entre les deux confinements, en fait. Hein, c'était au début de la crise Covid. On a eu de la chance de pouvoir l'exposer parce que c'est vrai que c'était... L'exposition se faufilait pile entre ces deux périodes et ça tombait bien. C'est vrai que c'est une longue histoire, hein, cette fresque. Donc, elle a été rendue possible déjà par tout un travail d'imagination, mais c'est vrai que c'était un projet qui a été très coûteux et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont soutenu dans ce projet et de pouvoir le réaliser. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y voit, pour revenir à la question ? Donc, il y a quelque chose de cyclique dans cette image. Et elle met en avant une divinité mythologique bien particulière, Dionysos, donc qui est le dieu du vin en premier abord, mais qui a une profondeur philosophique assez importante, qui est celle donc qui serait une figuration du chaos et des choses qui s'effondrent, mais une fois essoufflées en fait. Hein. Donc en fait, Dionysos, c'est celui qui vient amener le chaos dans les choses fatiguées, dans les civilisations fatiguées. En fait, il vient un peu dynamiter les choses. Un peu, c'est un peu le rôle que le Christ a joué un petit peu. C'est un peu le rôle que le Joker joue dans Batman aussi. Il révèle un peu à travers des justices qui sont fatiguées et qui savent plus se rendre. Il vient révéler en fait les choses qui ont été ensevelies. Par la fatigue d'une civilisation et qui avec la fatigue d'une civilisation vient la corruption et toutes ces choses qui étouffent en fait beaucoup de vérité, et le chaos vient révéler des choses et vient revitaliser des choses fatiguées et mortes en fait, hein. Donc voilà ce que signifie en fait, en gros, en fait, cet amour pour cette divinité là que j'ai eu besoin de mettre en scène. Dionysos, donc cette figure mythologique qui m'a beaucoup inspiré, parce que je sentais venir un peu cet essoufflement en fait dans notre société. On sent cette fatigue, et puis il y a cette sensation qu'il y a plus, comme s'il y avait plus de place pour des choses nouvelles, et je pense que un nouveau souffle serait bienvenu, de remettre en question certains fondements de la société, certains fondements traditionnels, hein, qui mériteraient d'être re-questionnés. Ouais.
C'est une fresque que l'on peut admirer sur votre site internet. Est-ce qu'il y aura bientôt la possibilité de la voir lors d'une exposition ? Est-ce que vous avez des dates qui arrivent ?
Alors, il n'y a pas encore de date encore précise. Bon, alors, cette fresque-là a été visible, donc c'était la pièce maîtresse de ma dernière exposition, donc de l'ancienne. En principe, elle sera visible aussi lors de ma prochaine exposition, aux côtés de... J'imagine 4 autres pièces de ce style-là. C'est un peu ambitieux parce que c'est vrai que c'est vraiment un travail de longue haleine qui mérite beaucoup de préparation, de demande de fonds, de recherche de lieux, de figurants, parce qu'il y a beaucoup de figurants. C'est une photographie qui met en scène une trentaine de personnes. Et donc, si tout va bien, oui, il y aura 4 autres pièces aux côtés de celle-ci, de Rerum Natura, qui seront visibles lors de la prochaine exposition. Ouais.
D'accord. En un ou deux mots, pourquoi De Rerum Natura, ce titre ? Il fait référence à un poème, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est les poèmes un livre de poèmes de Lucrèce, qui avait une manière de décrire la vie très, très réaliste et qui était un peu désenchantée comme ça. Le désenchantement, ça fait pas partie de ma manière de voir les choses, mais disons qu'il avait une manière de voir la vie sans filtre ou sans très, bon, peut-être très réaliste en fait. On va dire, d'un côté, en un sens, ouais.
On vous avait parlé de vos modèles, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de diversité chez vos modèles. Il y a aussi beaucoup de références dans cette fresque à la musique. Il y a des instruments, il y a des partitions, il y a des gens qui chantent. Donc la musique a une place dans ce genre d'œuvre qui a une plus grande part de création, j'imagine.
Ouais, totalement. Même là, on les retrouve. Alors que de prime abord, c'est pas des projets où je mets en avant les musiciens, mais c'est plus l'idée de mettre en avant en fait des mises en scène et puis de retrouver un peu ces grandes fresques baroques qui se faisaient à l'époque. Donc c'est un peu l'idée de reprendre ça. Mais la musique est toujours présente, hein. C'est vrai que sur le bas à droite, par exemple, de cette grande fresque, on peut retrouver cette fameuse scène de Orphée et les Ménades, en fait, hein, qui, bon, à la base, c'était plutôt une lyre avec laquelle Orphée se faisait taper dessus, mais c'est vrai que selon les interprétations et selon les époques, tout d'un coup, on y insérait des violons ou d'autres instruments qui étaient plus contemporains à ce moment-là, ouais.
Nous allons maintenant écouter notre troisième extrait musical. Il s'agit de Love Me or Leave Me de Nina Simone.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Radio Cité Genève. Nous écoutions Love Me or Leave Me de Nina Simone, un choix de Christian Meuvely, portraitiste et mélomane. Christian, pourquoi avez-vous choisi cette pièce et pourquoi Nina Simone?
Je sais jamais par quel bout prendre cette question, mais je sais pas. C'est peut-être Bon, déjà, c'est une artiste que j'adore, que j'admire énormément dans son parcours et dans son militantisme, on va dire. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, un mot qui revient beaucoup dans ses chansons et quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est qu'elle parle beaucoup de liberté, en fait. Hein. Et la raison pour laquelle je trouve qu'on l'oublie souvent aujourd'hui, c'est que, à mon sens, les plus grands progrès sociétaux ont été réalisés au nom de ce principe-là, au nom de principe de liberté, et non pas d'égalité, en fait. Comme aujourd'hui, on pourrait le croire, il y a une grosse monopolisation, je trouve, très politisée, du progrès qui passe par le prisme de l'égalité. Et je pense qu'on oublie que les plus grands progrès de la société ont été réalisés par amour de la liberté, l'amour de pouvoir exaucer ses désirs et ses passions. Et voilà, l'émancipation, toutes les émancipations ont été réalisées par amour pour la liberté, je trouve, plus qu'autre chose. Et elle me rappelle ça, voilà, dans beaucoup de ses titres et dans beaucoup de ses textes. Le mot revient souvent, le mot revient très souvent et elle me le rappelle beaucoup. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup, pour son militantisme et puis pour sa flamme.
Oui, dans son parcours, il faut savoir que Nina Simone n'a pas bénéficié de la liberté de faire ce qu'elle voulait.
Ouais,
elle voulait être pianiste classique.
Ouais.
C'est d'ailleurs, on entend une gigue dans cet extrait que nous avons écouté, c'est ça ? Elle place donc des références de musique classique, sa première passion. Elle s'est ensuite tournée vers le style, vers le jazz, qui était plus accessible, j'imagine, pour les gens de sa couleur de peau à cette époque.
Ouais, clairement, ouais. Ouais. Et c'est vrai que finalement, on voit qu'il y a eu quand même un immense progrès qui a été effectué en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de musiciens classiques d'origine afrodescendante, hein, comme Cheikh Ekene Mason qu'on a écouté tout à l'heure, et Nina Simone qui aurait beaucoup voulu l'être. Elle a été très déçue et très triste qu'elle ait pas pu. C'est vrai qu'elle ait pas pu à ce moment-là réaliser ce rêve-là. Mais voilà, on vit aujourd'hui dans une société qui nous le permet, mais il y a encore beaucoup de préjugés à détruire. Hein. C'est vrai qu'il y a encore certaines barrières, mais qui sont plus celles, vraiment celles de la liberté, mais peut-être celles des préjugés. Je pense que les préjugés ont la peau dure, et c'est vrai que de voir un afro-descendant tout d'un coup jouer de la musique classique peut encore être freiné par certains préjugés, mais qui viennent des deux côtés, hein, pas juste du côté vieille noblesse, etc., mais aussi du côté afro. C'est vrai que tout d'un coup, on peut se dire, mais c'est quoi cet afro-descendant qui fait de la musique, il se prend pour un blanc, ou etc. Donc, il y a des freins, et je pense que les esprits ont besoin de s'ouvrir des deux côtés, hein, de tous les côtés.
Christian Meuvely, vous abordez ce sujet en quelque sorte en connaissance de cause. Vous êtes, vous, métisse. Est-ce que c'est pour ça que c'est un sujet qui vous tient autant à cœur ? Est-ce que...
Un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais même si je fais très peu attention, parce que... Moi, mon père est fribourgeois, ma mère est togolaise, et j'ai toujours vécu un peu entre ces deux cultures. Hein. Le mardi, voilà, je mangeais de la semoule et du gombo. Le lendemain, chez ma grand-mère, je mangeais rösti, bratwurst, et j'ai toujours un peu navigué, un peu oscillé entre ces deux choses. Et c'est vrai que je connais aussi un petit peu la Suisse profonde. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que peut-être des remarques un peu déplacées parfois, qui sont jamais méchantes, mais des fois qui peuvent toucher un petit peu. Mais c'est pas un militantisme dur que je mène, mais c'est plutôt une quête de liberté, et puis de briser quelques préjugés. Je pense que c'est une approche plus bienveillante du progrès, c'est de détruire des préjugés plus que d'être dans un militantisme dur qui peut parfois desservir certaines causes. Mais en tout cas, je suis bienveillant envers toutes les démarches, hein, toutes les démarches qui vont dans un sens de l'ouverture. Je suis bienveillant envers toutes les démarches, mais c'est vrai que la mienne est peut-être un peu plus douce, peut-être plus axée vers la liberté. Puis, ouais, voilà, on dira ça, ouais.
Très bien, nous écoutons maintenant la gigue de la deuxième partita pour violon de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Rachel Colli d'Alba. Est-ce que c'est donc la gigue jouée par Nina Simone dans l'extrait précédent ou c'est inspiré?
C'est pas celle-ci, alors celle que jouait Nina Simone dans cette fameuse chanson Love Me or Leave Me, c'était une gigue de la suite anglaise, donc pour piano. Celle de Rachel Colli, c'est une gigue de la deuxième partita, deuxième partita pour violon de Bach.
D'accord, c'est ce que nous écoutons tout de suite.
Cité Genève.
Il s'agissait de la gigue de la deuxième partita pour violon de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Rachel Colli. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Meuvly. Et Christian, je voulais maintenant vous demander Vous êtes donc amie avec beaucoup de musiciens, c'est le cas de Rachel Colli, c'est le cas de Christian Chamorel que nous avons écouté tout à l'heure. Est-ce que vous n'écoutez que, est-ce que vous n'écoutez que vos amis?
Mais souvent parce que ça me rappelle des rencontres, ça me rappelle des moments aussi. C'est vrai que c'est beau en fait la musique, mais finalement la photo a quelque chose de très, le portrait en fait est quelque chose de comme un outil qui tisse des liens. Et c'est vrai que la photographie crée des débuts de longues amitiés parfois, et je trouve ça chouette. Donc non, bon, j'écoute pas que, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de musiciens que j'admire beaucoup aussi, que j'aimerais aussi pouvoir photographier, mais j'écoute souvent, oui. J'écoute très souvent mes amis parce que je les photographie pas parce qu'ils sont mes amis, mais c'est parce que c'est aussi les meilleurs. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup besoin dans mes amitiés et puis dans les liens que je tisse, c'est que j'ai besoin d'admiration. Et c'est vrai que si je les photographie, c'est qu'il y a une part d'admiration qui est assez importante. C'est ce qui me mène souvent vers eux. Ouais.
Vous écoutez donc vos amis, mais pas que. Quel style de musique classique vous intéresse particulièrement?
Quel style de musique classique? Moi, j'écoute un peu toutes les époques. C'est vrai qu'en termes d'image, j'aime beaucoup m'inspirer de la période baroque et puis il y avait déjà un petit côté un peu romantique comme ça dans le baroque qui était pas trop figé. Il y avait encore un peu une sorte d'amour pour la nature qui se retrouve encore dans de nombreuses pièces d'ailleurs. La différence avec le classicisme, il y a quelque chose de très très sec comme ça, et puis d'ailleurs ça se retrouve aussi même dans l'architecture, hein, le côté le classicisme, c'est vrai qu'on retrouve toujours ces grands jardins fleuris, mais avec une nature très très cloisonnée, très taillée. Ouais, moi j'aime le côté encore un peu sauvage et rugueux, ouais, du baroque. Mais sinon dans les autres époques, j'aime un peu tout. Je me retrouve de temps en temps dans le classicisme, dans le classique, dans la période romantique, dans les choses plus modernes. Et c'est après que ça se gâte.
Notre émission aborde la musique classique sous le prisme des échanges intergénérationnels. Donc vous avez découvert la musique classique assez tard. Vous n'avez pas été guidé dans la musique en tant qu'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez à d'autres enfants?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a précisément mené dans la musique classique. C'était peut-être pas la musique classique en elle-même, mais c'était peut-être un peu mon désarroi pour une époque qui va un peu trop vite, hein, et qui en perd de sens en fait, hein, parce qu'elle va trop vite, hein. C'est peut-être je sais pas, la grande consommation, etc. Et j'avais besoin en fait de quelque chose qui soit porteur de certaines valeurs de prise du temps, le temps long en fait, hein. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les musiciens qui commencent effectivement très jeunes, hein, et qui ont parcours de presque une dévotion très importante, hein. Il y a un amour pour une chose, c'est une quête en fait, hein, une quête, hein. Et ce mot quête, c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve très peu encore aujourd'hui, hein, parce qu'on est dans une époque où on refuse l'apprentissage, on veut devenir sensifié avant. Et je pense que c'était peut-être ça qui m'a aussi, hein, c'est peut-être aussi ça qui m'a mené vers la musique classique. Maintenant, si je le souhaiterais aux jeunes, ce serait très contradictoire, mais c'est vrai que, mais peut-être, hein, peut-être qu'il faudrait introduire soit très tôt, mais en même temps, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui doit apprendre à savourer. C'est quelque chose qui doit, on rentre dans la musique classique par peut-être une initiation, peut-être un peu plus. J'ai pas de réponse à ça en vrai. Je sais pas. Je vous avoue que ouais, je sais pas.
Laissons cette question ouverte, c'est très bien. Nous écoutons maintenant le premier mouvement du 5e concerto pour piano de Camille Saint-Saëns, interprété par un autre de vos modèles, Louis Schwitz-Gebel.
Thank you. Radio Cité Genève.
Nous écoutions le premier mouvement du 5e concerto pour piano de Camille Saint-Saëns, interprété par Louis Schwitzgebel. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Meuvely. Et maintenant, j'aimerais savoir quel rôle a la culture dans votre quotidien. Vous avez parlé d'architecture, même de jardinerie, en parlant des jardins bien taillés. La photographie, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres arts qui vous intéressent? Comment vous vous nourrissez culturellement?
Alors, c'est marrant, mais en ce moment, je regarde beaucoup l'architecture et comment est-ce qu'elle se marie à la nature, en fait. Hein. Parce que j'estime que la protection de la nature est très importante, et c'est quelque chose, en tout cas, qui nourrit beaucoup mes réflexions. Et j'aime beaucoup faire ces comparaisons, justement, avec les jardins romantiques de l'époque, où on estimait que la nature devait rester sauvage et indomptée. Et tout d'un coup, le classicisme qui essaie de cloisonner tout d'un coup la nature, et puis estimer que la nature, c'est une mauvaise chose, donc il fallait la cloisonner. Et je vois aujourd'hui, en me baladant sur Instagram comme ça, je vois beaucoup d'architecture qui d'une certaine manière épouse la nature et la manière dont elle pousse. En même temps, on contredit pas l'un pour l'autre, en fait. Hein. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je connais pas grand chose, hein, en architecture, ni qui sont les grands noms des architectes contemporains. Mais c'est vrai que je ressens quand même une tendance à lier justement la nature et l'architecture, mais d'une manière qui a pas encore été faite, parce que elle ne nie pas l'architecture et elle ne nie pas la nature. C'est quelque chose qui s'épouse, hein, sur un équilibre assez intéressant. Il y a des choses assez intéressantes, toi, qui ressortent. Donc ça se voit beaucoup, hein, sur ces pages Instagram qui sont destinées au vert, et puis à cette nouvelle tendance un peu écologique. Donc ouais, j'invite les gens à découvrir un petit peu cet aspect qui est intéressant. Hein.
D'accord. Est-ce que ces influences transparaissent dans votre photo?
Paradoxalement, pas encore beaucoup.
Est-ce que vous pensez que ça va venir?
Oui, ça va venir. Ouais, bon, ça se ressent un petit peu. C'est vrai que de toute façon, dans les inspirations baroques, on est déjà dans cette acceptation un peu chaotique. Donc, ça laisse de la place à la nature, à son développement, et ça laisse de la place aussi à l'architecture, à son développement. Et je pense qu'il y a rien de rigide dans le baroque. C'est encore un questionnement, je trouve, cette période. C'est encore un questionnement qui prépare un peu l'arrivée d'une forme de renaissance, en fait. C'est quelque chose d'assez libre et un peu... Ouais, c'est ce côté liberté que j'aime beaucoup. Et ce côté hors cadre aussi dans la peinture baroque. Tout d'un coup, il y a des cadrages et on voit des personnages encore un peu découpés sur les bords, qui invitent à les regarder vers l'extérieur. Et c'est ces mystères-là qui m'intéressent beaucoup. Ouais, c'est le côté un peu libre de tout ça qui m'inspire beaucoup dans le baroque, ouais.
La liberté, l'homme et la nature plutôt que l'homme contre la nature, des sujets qui sont importants pour vous. Mm-hmm. Nous écoutons maintenant l'Allegro de la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninoff, interprétée par Camille Thomas et Béatrice Berru.
Thank you.
Nous écoutions l'Allegro de la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov, interprété par Camille Thomas et Béatrice Berru. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Meuvely et il est maintenant venu l'heure de la question qui tue. Christian Meuvely, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une que vous rêvez de photographier mais qui vous semble inaccessible? Un rêve inatteignable?
Alors un rêve futur, pour le moment le rêve n'est pas encore formulé, mais c'est vrai que chaque portrait que j'ai réalisé était quelque part un rêve qui s'est exaucé. Donc on laisse les prochains arriver.
Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de rêves à exaucer. Merci Christian Meuvely pour avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Vous écoutiez Entre les âges, émission qui met en avant les échanges entre les générations dans la musique classique, présentée par Laudindar. Merci beaucoup au producteur Olivier Steinmetz. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.